Chapitre 2. Vers une définition. La rhétorique, c'est donc l'art de convaincre. À première vue, rien de plus élémentaire. Mais comment définir exactement la conviction? Où se situent ses frontières avec les autres domaines dont elle semble proche? L'éloquence, la négociation et même la manipulation. Voilà toutes les questions qu'il nous faut avant toute autre chose élucider. En commençant par le commencement, dire de la rhétorique ce qu'elle n'est pas. 1. De la stylistique. Au milieu du XXe siècle, Chaim Perelman réhabilite la rhétorique comme véritable art de convaincre. Elle continue pourtant, à ce jour, d'être ramenée au stéréotype de ce qu'elle a longtemps incarné, l'étude obsessionnelle des figures de style, si bien que, lorsque l'on évoque la rhétorique, nos interlocuteurs s'attendent à être assaillis de mots barbares tels que « épanalepse »,« zeugme » ou « chleasme ». Ils n'ont qu'en partie raison. Il est vrai que les figures de style sont des outils fréquemment mobilisés par la rhétorique. Mais elles ne sont que cela, justement, des outils. Au contraire de la stylistique, la rhétorique ne s'intéresse pas à l'étude littéraire pour elle-même. Peu importe, au fond, d'être capable de distinguer une métonymie d'une synecdoque, une allitération d'une assonance. Ce qui compte pour nous, c'est de connaître les effets argumentatifs produits par ces figures, comprendre en quoi elles ont un impact sur les auditeurs. La rhétorique utilise les procédés stylistiques, mais ne s'y réduit pas. Elle les mobilise au profit d'un projet bien spécifique, convaincre. Cette précision entraîne deux conséquences pratiques. Premièrement, les lecteurs et lectrices ne trouveront dans les pages qui suivent aucune section consacrée spécifiquement aux figures de style. Elles seront mentionnées au fil des développements comme un type d'outil parmi bien d'autres. Deuxièmement, par souci de clarté et de pédagogie, nous avons fait le choix de réduire au maximum la complexité des classifications. Chaque fois que cela sera possible, les figures dont les effets argumentatifs sont similaires seront englobées sous une même désignation générique. Ainsi, toutes les analogies pivotant sur un seul mot seront par exemple regroupées sous leur appellation la plus courante, celle de métaphore. Nous avons conscience que, aux yeux des professeurs de littérature les plus tatillons, une telle initiative s'apparentera à de la sauvagerie. Mais, précisément, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la technicité stylistique, mais bien l'efficacité rhétorique. 2. De l'éloquence. Le début du XXIe siècle a été marqué par un retour en grâce de l'éloquence. Longtemps, elle fut cantonnée au monde des avocats, pratiquée dans les tribunaux et travaillée par de jeunes étudiants en droit. Depuis, documentaires, films et émissions de télévision l'ont révélée au grand public. Il n'y a désormais plus une université qui ne dispose de son club de débat. Les lycées, les collèges et même les écoles primaires investissent progressivement l'oralité. Quant à l'univers professionnel, des formations à la prise de parole en public au concours de pitch, il a lui aussi développé sa propre vision de l'art oratoire. Mais si éloquence et rhétorique possèdent des points de convergence, elles ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, de séduire son auditoire, de flatter ses oreilles par un vocabulaire singulier, des phrases ciselées, une prononciation inspirée. C'est l'art de s'exprimer avec style, grâce et virtuosité. Ainsi défini, il apparaît immédiatement que l'éloquence est une condition de la rhétorique. Lorsque nous prononçons un discours, capter l'attention est un préalable à toute possibilité de conviction. Nous pourrions bien disposer des arguments les plus ensorceleurs, si nous parlons sans être écoutés, jamais nous n'atteindrons nos auditeurs. Pour autant, éloquence et rhétorique ne se résument pas l'une à l'autre. Il est possible de témoigner d'une grande éloquence sans s'inscrire pour autant dans une démarche de conviction. Que l'on songe, par exemple, aux comédiens, conteurs et poètes. Leurs paroles sont une mélopée avec laquelle ils charment l'auditoire. Quelle plus époustouflante oralité que celle déployée dans une salle de spectacle où les heures s'écoulent sans que les spectateurs les voient défiler. Cette éloquence n'est pourtant pas, ou du moins pas nécessairement, mise au service d'un projet rhétorique, mais plutôt d'une visée artistique dont l'objectif n'est pas de convaincre, mais d'émouvoir, étonner, dépayser, faire rire ou pleurer. À l'inverse, pratiquer la rhétorique ne suppose pas nécessairement d'être éloquent, dans la mesure où elle peut emprunter d'autres voies que la seule oralité. Pensons par exemple à la lettre que François Mitterrand adresse à tous les Français en 1988 pour les exhorter à le réélire président de la République. Il s'agit bien d'une entreprise de conviction, mais elle passe par le médium de l'écrit et ne mobilise donc aucune compétence oratoire. Il en va de même pour la lettre de motivation que nous rédigeons lorsque nous recherchons un emploi, ou pour les messages que nous échangeons sur un site de rencontre. Il participe d'un projet pleinement rhétorique, tenté de convaincre, par écrit, que nous sommes l'élu. On peut donc être virtuose de sa parole sans pour autant chercher à convaincre, tout comme il est possible de convaincre sans recourir à l'oralité. Rhétorique et éloquence se recouvrent partiellement sans se confondre pour autant. À ce stade, il est probablement bon d'ouvrir une courte parenthèse afin d'évoquer un mythe tenace, celui des 7%. Comme de nombreux experts en prise de parole se plaisent encore à le rappeler, 55% de notre communication passerait par notre posture, nos gestes et nos expressions faciales, et 38% par les inflexions de notre voix. Seulement 7% du message serait en réalité transmis par les mots. Lorsque nous cherchons à convaincre, notre propos aurait infiniment moins d'importance que notre manière de le déclamer et surtout notre talent à l'incarner. Dès lors, à quoi bon s'intéresser à la rhétorique ? Une formation en éloquence où l'on apprend à se tenir droit et parler fort serait amplement suffisante. Hélas, ceux qui citent ces chiffres oublient généralement de préciser leur origine. Il remonte à deux études publiées en 1967 par le psychologue Albert Mehrabian et son équipe. Or, elles sont le plus souvent citées de guingois. Ce qui intéressait réellement ces chercheurs, ce sont ce qu'ils appellent les messages silencieux, c'est-à-dire la manière dont les individus parviennent à faire comprendre leurs émotions et leurs sentiments. Ils ont pour cela étudié des messages verbaux très courts, formulés en un seul mot, « chéri »,« amour », »,« brut », »,« peut-être », »,« non ». La conclusion qu'ils tirent est la suivante. Lorsque le sens des mots entrait en contradiction avec la manière dont ils étaient prononcés, ou avec le visage de celui qui les prononçait, les auditeurs ont eu tendance à privilégier l'information véhiculée par le ton de la voix ou les expressions du visage plutôt que par le mot lui-même. En cela, les résultats n'ont rien de particulièrement contre-intuitif. Imaginons la scène suivante. Lors d'un tournoi de bridge ou de League of Legends, notre partenaire commet une erreur désastreuse qui nous coûte la partie et nous éjecte de la compétition. Il vient alors nous voir et, penaud, nous demande « Est-ce que tu m'en veux ?» Le regard noir, la voix vibrante, nous lui répondons
Je ne t'en veux pas du tout. »
Il s'éloigne, courbé sous le poids de la culpabilité. Ce que lui a compris, c'est bien sûr « je t'en veux terriblement ». Voilà, au fond, ce qu'ont réellement montré Merabian et son équipe. Du reste, eux-mêmes mettaient en garde sur les potentielles généralisations de leurs recherches. Elles ne s'appliquent qu'à des messages simples, dans lesquels des émotions ou des sentiments sont exprimés de manière discordante, en aucun cas à des argumentations articulées ayant pour objectif de convaincre. Cela ne signifie pas que, en rhétorique, la voix et le corps n'aient aucune importance. De toute évidence, ils comptent, nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir, mais certainement pas pour 93% du message. Généraliser les proportions d'Albert Merabian à toute communication orale tient du contresens au mieux et de l'escroquerie au pire. Fin de la parenthèse. 3. De la négociation. En apparence, rhétorique et négociation semblent renvoyer à deux sphères bien distinctes, n'ayant que peu en commun. Elles sont pourtant deux modalités d'une même nécessité, celle de résoudre nos désaccords. La rhétorique, on l'a dit, c'est l'art de convaincre. Il est possible de l'exprimer autrement, en disant quel est le processus de résolution des désaccords par alignement des préférences. La phrase semble complexe, mais elle s'éclairera avec un exemple simple. Notre compagne ou notre compagnon désire passer la soirée au restaurant. De notre côté, nous avons plutôt envie de rester tranquillement dans notre appartement. Au gré de la discussion, notre interlocutrice ou interlocuteur nous rappelle que le voisin du dessus organise justement, ce soir-là, une fête en l'honneur de son 20e anniversaire. Soudain, nous nous imaginons pestant dans notre canapé contre cette jeunesse braillarde et sa musique assourdissante, et nous nous rangeons à la sage proposition d'aller se réfugier au restaurant. Nous avons été convaincus. Les préférences se sont alignées. Nous avons résolu notre désaccord en parvenant au consensus. La négociation diffère de la rhétorique en ce qu'elle intègre l'existence d'un rapport de force. Elle permet ainsi la résolution des désaccords par alignement des positions, alors même que les préférences restent divergentes. Prenons une nouvelle fois un exemple simple. Déambulant sur un site d'annonces en ligne, nous tombons nez à nez avec une guitare d'une grande rareté que nous convoitons depuis longtemps, proposée au prix de 1000 euros. C'est évidemment beaucoup trop cher. Pour nous, le juste prix serait plutôt de 600 euros. Mais nous savons également qu'une telle occasion ne se représentera peut-être jamais. Nous contactons donc le vendeur et, de mauvaise grâce, consentons à lui payer 900 euros. Nous nous sommes entendus sur une position commune. Pourtant, les préférences demeurent inchangées. L'un de nous aurait préféré vendre plus cher, l'autre acheter moins cher. Nous avons résolu notre désaccord en atteignant non pas le consensus, mais le compromis. En pratique, toutefois, la frontière entre rhétorique et négociation a tendance à se troubler. Au quotidien, nous les utilisons souvent de concert. Reprenons notre premier exemple. Notre compagne ou notre compagnon est donc parvenu à nous convaincre de passer la soirée au restaurant. Nos préférences se sont rapprochées, mais elles ne sont pas encore parfaitement alignées. Il s'avère qu'elle ou il voudrait dîner dans un restaurant japonais quand nous aurions plutôt envie de manger italien. C'est ici que s'arrête le consensus. Aucun argument au monde ne pourra nous convaincre que nous aimons le poisson cru. Nous trouvons finalement un compromis. Ce sera une soirée dans un restaurant fusion, servant à la fois des sushis médiocres et des pizzas quelconques. La rhétorique nous a permis de rapprocher autant que possible nos préférences, jusqu'à ce qu'elle bute sur une divergence irréconciliable d'intérêts, de valeurs ou, en l'occurrence, de goûts. Nous avons alors eu recours à la négociation pour combler le fossé séparant encore nos positions. Pour finir, notons que cette anecdote peut se terminer encore autrement. Alors que nous nous étions presque résolus à ce dîner sordide, l'un de nous a eu une idée soudaine. Et si nous en profitions pour tester ce fameux restaurant libanais qui nous a été récemment recommandé? Aucun de nous n'y avait pensé, mais une fois la proposition lancée, nous réalisons qu'elle nous satisfait tous deux parfaitement, davantage même que nos préférences initiales. Dans ce cas idéal, le compromis fait consensus, la différence entre négociation et rhétorique disparaît. Gardons à l'esprit malgré tout que rhétorique et négociation ne cohabitent pas nécessairement. Il existe des négociations, financières notamment, qui n'intègrent aucune dimension argumentative et se résument à de simples échanges de chiffres. À l'inverse, certaines situations rhétoriques, par exemple un discours devant une assemblée silencieuse, n'ont strictement rien à voir avec la négociation. L'une et l'autre se retrouvent fréquemment, mais ne se recouvrent pas entièrement. 4. De la manipulation. Ne soyons pas dupes. Dans le langage courant, faire de la rhétorique est rarement un compliment. Aux yeux de beaucoup, elle serait l'art de pervertir les consciences par le langage. Une odieuse technique de manipulation. Cette accusation n'est pas totalement dénuée de fondement, mais elle doit être interrogée. La manipulation fait partie de ces concepts qui sont plus souvent employés avec légèreté que définis avec rigueur. Dans son livre « La parole manipulée », Philippe Breton la caractérise ainsi « Entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. » La manipulation désigne donc l'ensemble des procédés permettant d'agir sur les opinions, les envies, les idées et les comportements d'une personne sans que celle-ci en ait conscience. Ou, pour le dire à notre manière, c'est l'art d'influencer les individus en contournant, altérant ou neutralisant leurs facultés critiques. Ils ne sont plus, ou du moins plus totalement, en mesure de mettre à distance, examiner et éventuellement rejeter ce qui leur est proposé. Il y a là un enjeu psychologique, éthique et politique essentiel. Ce que la manipulation remet en cause, ce sont les conditions mêmes de notre libre arbitre. Il ne fait plus de doute que les individus sont manipulables. La psychologie a, depuis longtemps, mis en évidence l'existence de biais cognitifs qui permettent d'influencer en utilisant les mécanismes automatiques du cerveau. Plus récemment, la neurologie a confirmé qu'il est possible d'agir sur les individus en utilisant des stimuli subliminaux, c'est-à-dire des images, des odeurs ou des sons tellement subreptices qu'ils sont captés par les sens sans que nous en ayons conscience. Il est donc, par définition, impossible de s'en défendre. De ce point de vue, la rhétorique ne relève pas nécessairement du spectre de la manipulation. Au contraire même, une grande partie des procédés rhétoriques ont pour but non de contourner, mais de triompher des réticences de l'esprit critique. Pour raisonner par analogie, si la rhétorique était un art martial, elle serait à la fois le karaté et l'aïkido. Savoir frapper l'interlocuteur par des arguments tout en étant capable de le faire trébucher dans ses propres contradictions. La manipulation, en revanche, s'apparenterait plutôt à l'art des ninjas. Agir dans l'ombre et frapper sans que la victime ait seulement eu conscience de la présence d'une menace. Comme l'affirme Philippe Breton, il est possible d'apprendre à convaincre sans manipuler. Ne faisons pas pour autant preuve d'une excessive candeur. La rhétorique comporte aussi son côté obscur. Appel aux émotions, utilisation de sophismes, exploitation de l'implicite, autant de procédés qui permettent d'assouplir, de tromper, voire de contourner les facultés critiques. La rhétorique n'est pas une manipulation, mais elle peut être manipulatoire. 5. L'art de convaincre. Ainsi donc, la rhétorique n'est l'art ni de bien parler, ni d'ornementer son discours, ni de négocier, ni de manipuler, mais bien de convaincre. Encore faut-il être capable de circonscrire ce que ce verbe désigne. Dans son traité de l'argumentation, Chaim Perelman en donne une définition rigoureuse à laquelle on pourra simplement reprocher sa relative complexité. Nous proposons la reformulation suivante. La rhétorique, c'est l'ensemble des procédés discursifs permettant de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions qu'on leur soumet. Cette définition appelle plusieurs remarques. Premièrement, la rhétorique se concentre bien sur les procédés discursifs, c'est-à-dire sur le discours dans toutes ses dimensions, orale et écrite, verbale et non-verbale. Deuxièmement, la rhétorique travaille sur des propositions qui sont soumises à l'adhésion des individus. Autrement dit, on ne peut parler d'un processus de conviction que si les individus sur lesquels il s'exerce en ont conscience. Ou, plus simplement, la rhétorique suppose que les personnes auxquelles nous nous adressons sachent que nous cherchons à les convaincre de quelque chose. Cette précision permet de distinguer la rhétorique des psychologies cognitives et sociales, qui s'intéressent aux techniques susceptibles d'influencer les comportements de manière subreptice. Troisièmement, la rhétorique s'intéresse aux procédés visant à susciter ou renforcer l'adhésion. Cette précision est importante. Elle revient à remarquer que nous pouvons parfaitement chercher à convaincre quelqu'un qui est déjà d'accord avec nous. Cela s'explique par le fait que l'adhésion à une proposition n'est pas un phénomène binaire. Nous ne nous contentons généralement pas d'être tout à fait d'accord ou entièrement en désaccord. Entre les deux, une infinité de degrés de conviction existe. Il est donc parfaitement possible de chercher à accroître l'adhésion d'un individu à une idée que nous partageons d'ores et déjà. Un bon exemple nous est donné par les meetings électoraux. Si des électeurs acceptent de se déplacer pour applaudir un candidat, c'est généralement qu'ils sont au moins en partie acquis à sa cause. L'un des objectifs de ces événements consiste alors à accentuer la ferveur de ses sympathisants jusqu'à en faire de véritables militants. Peut-être accepteront-ils ainsi de sacrifier plusieurs soirées par semaine à coller des affiches et distribuer des tracts. Pour finir, il nous reste à délimiter le périmètre de la rhétorique en précisant ce que nous entendons par l'ensemble des procédés. Sur ce point, les grands auteurs classiques se rejoignent très largement. Pour Aristote, la rhétorique repose tout entière sur trois dimensions: les argumentations que l'orateur propose, le logos, l'image que l'orateur renvoie, l'éthos, les émotions que l'orateur suscite, le pathos. De la même manière, Cicéron estime qu'un bon orateur doit remplir trois objectifs: instruire les auditeurs, docere, se concilier leur bienveillance, délectare, leur faire ressentir des émotions, mouere. Argumenter, plaire, émouvoir, le triptyque n'a rien perdu de son actualité. Chaim Perelman le reprend à son compte dans son traité de l'argumentation. L'immense majorité des auteurs contemporains en a fait de même. À notre tour, nous y souscrivons. Telles sont les armes de la rhétorique, les voies de la conviction.